SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 135, comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on a deux sujets dans Europa Voice, donc deux sujets, deux parties. Le deuxième sujet dans quelques instants sera l'intelligence artificielle et l'Europe qui prend des énormes décisions par rapport à l'accès et au développement de l'intelligence artificielle. On débattra de tout ça dans la deuxième partie de cette Europa Voice, mais première partie donc. La Bosnie, cœur donc des discussions. Alors c'est un petit peu, vous l'avez dit, c'est pas compliqué mais c'est un petit peu fastidieux. Accrochez-vous avec nous, c'est très intéressant en tous les cas. Il y a un groupe de pays des Balkans qui sont ou qui sont pas encore candidats. En tout cas, la Bosnie tape à la porte. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, en gros, pour résumer, l'Europe les a autorisés à taper à la porte. Juste pour simplifier le débat.
Voilà. Alors,
ça simplifie pas mal, quoi.
Il y a deux aspects. Alors, d'abord, pour les auditeurs d'SBS d'Europa Voice, bien comprendre que souvent l'Union européenne réfléchit en termes d'adhésion et d'élargissement par rapport aux ensembles géographiques qui sont présentes sur... Qui sont des zones géographiques sur le sol européen ou aux portes de l'Union européenne. Là, c'est le cas avec les pays qu'on appelle les pays des Balkans. Alors, quand on parle des Balkans, on parle des Balkans ici occidentaux. C'est l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. La question que l'Europe se pose, c'est comment, dans une fourchette de temps qui est encadrée dans les années 90 par un conflit sanguinaire qui a fait plus de 100 000 morts et dans les années 2020 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comment est-ce que maintenant je vais encadrer ce groupe de pays qui est sous la menace aussi du voisin russe et de la mainmise de la Russie à un moment, Christophe, où le conflit dans ces Balkans est terminé et donc ces pays peuvent légitimement, alors il y a plein de choses encore à faire, mais peuvent légitimement demander à être sur les rails d'un processus d'adhésion avec l'Union européenne.
Avec également le poids de l'Ukraine un peu plus haut dans la carte géographique de l'Europe, qui, elle, demanderait une adhésion à l'Union européenne sous un fast track, donc qui pourrait griller un peu la politesse à ces pays-là, alors que ces pays-là également ont eu un conflit très très dur, on le sait, il y a pas mal de temps, un conflit vraiment au cœur, aux portes de l'Europe vraiment à l'époque. Donc beaucoup de similitudes dans ce qui s'est passé et une réaction de l'Union européenne qui va devoir être différente parce que différentes périodes, différentes époques, différentes façons, différents combats, ça me pose quand même pas mal de questions par rapport à l'Europe tout ça.
Alors, l'Ukraine, c'était, il y avait tout un effet d'annonce aussi, d'une certaine façon,
oui, tout à fait.
Christophe. C'est-à-dire que ça faisait partie aussi du soutien à l'Ukraine.
Et puis un effet stratégique de réponse vers Poutine.
Exactement, mais de dire, voilà, accueillons l'Ukraine, permettons à ce pays qui est une zone tampon par rapport à la Russie d'intégrer plus rapidement. On parle de l'Union européenne, mais on peut aussi parler de l'OTAN, puisqu'on l'a vu là, il y a des pays aussi qui sont neutres depuis 30 ans, je pense notamment à la Suède, qui ont aussi intégré l'OTAN.
Donc,
la Finlande, il y avait un effet d'annonce, en fait, de l'Union européenne de mettre en place cette procédure accélérée pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Ça ne peut pas être reproduit pour chaque pays, pour des tas de raisons, mais la question que l'Europe se pose, c'est est-ce qu'on va encore attendre que ces pays soient menacés par un voisin de plus en plus hégémonique, ou est-ce qu'on va, si les conditions le permettent, favoriser l'accès à l'Union européenne, à ces pays? Et quand je dis favoriser, Christophe, c'est parce que vous l'avez mentionné en début d'épisode, c'est que pour la Bosnie-Herzégovine, là en l'occurrence, c'est simplement une nouvelle étape vers l'adhésion à l'Union européenne. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. La première, c'est qu'en fait, les 27 entament des pourparlers pour cette adhésion, se mettent d'accord. Et surtout, on le mentionne à chaque fois, il y a beaucoup de principes, notamment relatifs à l'État, au respect de l'État de droit, que la Bosnie-Herzégovine doit encore respecter et doit montrer patte blanche qu'elle a fait les efforts et qu'elle continue à faire les efforts pour que cette liste, on tique cette liste et qu'à la fin, in fine, la Bosnie-Herzégovine puisse non pas seulement candidater, mais aussi être intégrée, adhérée, acceptée par l'Union européenne.
Alors, aussi pour comprendre, la Bosnie est aussi à ses conflits un petit peu internes également. Les problèmes qui ont causé la guerre dans les Balkans sont pas tous résolus dans la région et ça se montre énormément au sein de la Bosnie. Il y a encore un gouverneur des Nations Unies qui est en charge de pas mal de décisions en Bosnie. Il y a une montée de l'extrémisme et en tout cas du populisme en Bosnie qui est très persistante depuis quelques années. Est-ce que ça fait de la Bosnie un candidat un petit peu différent de la Macédoine du Nord ou de la Serbie? En même temps, la Serbie, il y a eu quand même pas mal de velléités nationalistes aussi. On a beaucoup parlé, et ça je parle aux plus jeunes qui peut-être se référaient à leurs livres d'histoire, qui n'ont pas vécu cette période-là, c'était une poudrière cette zone, et mine de rien, ça l'est encore un petit peu en fait.
Bah, ça l'est encore. On peut dire, en fait, il faut, je pense, pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue en Bosnie-Herzégovine par rapport à l'Union européenne, il faut évidemment regarder ce qui s'est passé dans les années 90, mais il faut aussi pas oublier que pour beaucoup de ces pays d'Europe de l'Est, des Balkans, il y a des exemples et des réussites qui en appellent automatiquement d'autres.
La Croatie,
la Pologne, ouais, Christophe, la Pologne ne serait pas...
Où elle en est sans l'Europe.
Voilà, elle ne serait pas capable d'être alignée en termes d'indices de développement économique, notamment mis en place ou calculé par l'OCDE, si elle n'était pas partie intégrante de l'Union européenne.
Et c'est très intéressant avec la Pologne, puisque on va revenir à ça, mais pendant très longtemps, dans le côté ouest, on va dire, de l'Europe, on avait peur du fameux plombier polonais. Ça s'est pas passé. L'Europe n'a pas été submergée par les plombiers polonais. Donc en fait, il y a des peurs qui étaient là, qui ne se sont pas avérés vrais. Donc, on apprend aussi de ces situations-là.
Oui, et puis encore une fois, il y a un contexte géopolitique, il y a un alignement sur la réalité politique qui fait que, de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, si ce n'est pas l'influence de l'Union européenne et l'appartenance à l'histoire de l'Union européenne qui va primer dans les prochaines années pour ces pays des Balkans, c'est la mainmise de Moscou, c'est même la mainmise de la Chine, en termes d'influence, qui sera la priorité, enfin qui sera en fait la réalité pour ces pays dans les prochaines années. Et sur la question des migrations et la peur du plombier polonais, etc., ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on a parlé là des efforts que la Bosnie-Herzégovine a fait, les efforts que la Bosnie-Herzégovine a fait ces dernières années, et ben, notamment sur les questions migratoires, la Commission européenne salue l'acceptation du pays de coopérer notamment beaucoup plus avec l'agence européenne Frontex pour mieux contrôler ses frontières. Donc c'est assez intéressant que par exemple sur ces questions migratoires, on sait que souvent il y a des polémiques sur et Lampedusa et la prise en charge notamment des migrants et la répartition de ces migrants qui arrivent aux portes de l'Europe, mais aussi la question des frontières parce que évidemment à 27, à 30, à 35, la question des frontières, elle n'a pas du tout la même acuité que quand on était à une Europe des 6. Et c'est beaucoup plus difficile de surveiller ces frontières. Et bien sur ces questions-là, notamment, la Commission européenne salue les efforts de Sarajevo. Encore une fois, c'est surtout sur les questions du respect de l'état de droit, de la liberté de la presse, du respect des minorités sexuelles, religieuses, des principes de démocratie, qu'il y a encore des efforts à faire. Et puis, vous l'avez mentionné, ce contexte extrêmement particulier presque d'un gouvernement bicéphale, en fait, qui
ouais,
est resté
tout à, fait, ouais.
À la suite du conflit dans les Balkans.
D'ailleurs le seul pays extrait du conflit des Balkans qui a encore, justement, les Nations Unies à la tête du pays.
Et c'est surtout aussi un pays où forcément une des parties est plus pro-russe que l'autre,
ouais,
même si sur ces questions-là, le pays, enfin le parti historiquement qui était proche de la Russie, et là je pense à Milorad Dodik, le dirigeant de la Republika Srpska, il a adouci d'une certaine façon sa position. Il a était beaucoup plus tempéré dans son soutien, dans sa proximité, appelons-le comme ça, avec la Russie. Et donc ça aussi, c'est important pour l'Union européenne. L'idée, c'est pas d'avoir un cheval de Troie de la Russie dans l'Union européenne. Et puis, ce que je voulais aussi mentionner, Christophe, c'est que là, on parle de la Bosnie-Herzégovine parce que c'est l'actualité de l'Union européenne et parce que les dirigeants des 27 vont en discuter fin mars. Mais ça s'inscrit dans un processus global de l'Union européenne d'aider ces pays des Balkans et notamment avec ce qu'on a appelé un plan de croissance, c'est vraiment injecter de la monnaie, injecter des subventions pour les aider à accélérer cette transition et faire qu'il ne reste plus, là je parle des 6 pays des Balkans occidentaux, ne reste plus pendant des années dans cette antichambre de l'Union européenne, mais puisse avoir le feu vert pour encore une fois faire cette procédure d'adhésion officielle et in fine devenir membre de l'Union européenne.
Parce que pour conclure là-dessus, je prends l'exemple de la Macédoine du Nord qui a pendant très longtemps eu un énorme soutien pour l'intégration dans l'Union européenne. Le fait que ça prenne du temps, ça aide pas. Ça aide pas la population à vouloir continuer à intégrer l'Europe. Tout ça, ça prend du temps. On sait que ça peut prendre presque des générations en fait. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a certains pays qui ont plus ou moins émis l'idée de rejoindre l'Union européenne en 2005, hein, c'est il y a 20 ans, donc on parle d'une génération. Ça aide pas dans l'opinion publique des pays, notamment en Macédoine du Nord, où ça commence à se retourner sur le fait de vraiment veut-on ou pas intégrer l'Union européenne.
Alors effectivement, sur la question de la Macédoine du Nord, Christophe, le pays a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne en 2004, a obtenu le statut de candidat en 2005. Mais l'Union européenne n'a officiellement ouvert les négociations qu'en mars 2020, après de nombreux reports. Et donc ça pose plein de questions. D'abord, pour le pays en question et sa population, parce qu'il faut aussi convaincre. Hein, c'est pas forcément évident de convaincre sa population des bienfaits d'une adhésion à une entité extérieure, avec un parlement, avec un exécutif, une commission, etc. Mais aussi par rapport aux autres pays de l'Union européenne, parce qu'il faut le savoir, mais c'est le cas pour la Bosnie-Herzégovine, tous les pays de l'Union européenne n'affichent pas le même soutien. On a des pays, par exemple, comme l'Autriche, qui sont des grands soutiens de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins enclins.
La Hongrie, par exemple. On en parle à chaque fois, mais par exemple.
Même des pays, j'allais dire, là on faisait le divide un peu Est-Ouest, mais voilà, c'est souvent d'ailleurs, c'est assez contradictoire, parce que c'est les pays de l'Est qui voient le facteur stabilisateur que l'Union européenne peut apporter à ces pays, alors qu'il y a un conservatisme qui peut apparaître souvent plus du côté des pays de l'Ouest. On parlait du plombier polonais, mais c'est simplement cette illustration de ce conservatisme, de cette peur. Et puis, il y a aussi quand même en toile de fond le Brexit. C'est-à-dire que...
Quand un des pays, alors pas fondateur, mais qui était là vraiment quasiment au tout début, décide de partir, la complexité de partir également
exactement
n'aide pas non plus les gens à se dire est-ce qu'on va y rentrer, si jamais on veut partir, c'est compliqué. Enfin, tout ça, ça complique un peu la discussion, en fait.
Ça complique, et puis il y a aussi l'incertitude. Là, c'est un billard à plusieurs bandes, parce que c'est une année, encore une fois, rappelons-le, d'élection européenne. Le Parlement européen va être élu... Début juin 2024, c'est pas évident qu'il ait la même couleur politique, c'est pas évident que Ursula von der Leyen soit reconduite pour un deuxième mandat à la tête de la présidence de la Commission européenne. Donc tout ça aussi, c'est plein d'incertitudes. Là, il y a une impulsion d'Ursula von der Leyen pour faire ses partenariats, ce renforcement économique, ce plan de croissance avec les pays des Balkans. Rien n'est moins sûr qu'un autre ou une autre présidente de la Commission européenne soit sur la même ligne. Et donc, il y a plein d'incertitudes qui font que ces pays ont tout intérêt à profiter du contexte assez favorable, géopolitique extérieure comme le fast-track ukrainien, géopolitique intérieure comme Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, les Autrichiens, etc., qui veulent accélérer ce processus-là. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, même pour les pays de l'Union européenne.
Absolument. Vous écoutez Europa Voice, fin de la première partie. Enfin, une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'intelligence artificielle et de loi en Europe. Tout de suite après ça.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
Europa Voice, deuxième partie. Et maintenant, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, c'est le mot qui est à la lèvre, qui est aux lèvres de pas mal des gens en ce moment. On se rend pas bien compte à quel point l'intelligence artificielle change déjà notre vie. Même si on parle même pas de futur, on parle de présent. Et l'Union européenne qui agit là-dessus. Alors, l'Union européenne, juste pour recadrer, a quand même pas mal d'histoires par rapport à tout ce qui était les serveurs américains, tout ce qui était la collection de données, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de conserver. Les Européens ont une loi beaucoup plus restrictive sur la vie privée, en tout cas en ligne. Là, aujourd'hui, l'Union européenne encadre un peu plus, alors sans forcément dire que c'est contraignant, mais en tout cas encadre un petit peu plus ce que l'intelligence artificielle peut faire ou pas faire. En tout cas, on met un petit peu des parenthèses autour de cette intelligence artificielle.
C'est, Christophe, en fait, le Parlement européen qui a adopté une législation qui est unique pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez employé le mot, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la
contraignante.
C'est exactement, c'est la première loi contraignante au monde sur l'intelligence artificielle pour encadrer la technologie. Et c'est toujours la même chose, Christophe. C'est comment est-ce qu'on fait d'un côté pour protéger les droits et la sécurité, la vie privée, etc. Et de l'autre côté, ne pas brimer l'innovation et permettre la recherche, le développement, la croissance. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Ça a été le même enjeu. Vous l'avez mentionné. Je pense que vous faisiez référence aux lois DMA,
contre les réseaux sociaux.
Ouais. DMA, notamment DSA, qui ont été, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui ont été portées par le même commissaire, notre cocorico Thierry Breton. Là, on est aussi dans le même, j'allais dire, dans le même ordre d'idée. C'est vraiment cette opposition entre encadrement législatif, protection d'un côté, et innovation, recherche. Et technologie de
alors, je vais faire, on va parler de ça tout de suite, mais je vais faire l'avocat du diable. Franchement, ça change quoi? Quand on sait que l'intelligence artificielle, elle est quand même globalement développée énormément par les Américains et les Chinois. On sait pas trop ce que les Russes font derrière également, mais bon, voilà au minimum deux nations qui sont des pionniers, des piliers du développement de l'intelligence artificielle, qu'ont la masse d'utilisateurs qui volent en Chine ou aux États-Unis. Je pense qu'on se rend pas bien compte au niveau européen, chez Monsieur Tout le Monde, l'impact que l'intelligence artificielle a en Chine, la reconnaissance faciale, etc. On voit tellement d'histoires autour de ça. Que l'Europe décide dans son coin, enfin au milieu en tout cas, si on prend une map monde, mais que l'Europe décide dans son coin de légiférer sur l'intelligence artificielle, entre vous et moi, ça change quoi?
Alors, je vais répondre par, d'abord, je vais répondre par, j'allais dire, une petite pirouette. C'est très vrai, tout est interconnecté, Christophe. Que les Européens légifèrent dans leur coin, ça n'a pas tellement d'intérêt si tout le monde ne prend pas part à la légifération autour de ces questions-là. C'est la même question, en fait, pour tous les débats. C'est la même question pour la taxation carbone, etc.
Ouais, mais là-dessus, juste pour faire on va rappeler quelque chose, juste pour vous interrompre d'autres 30 secondes. La loi sur les réseaux sociaux et la collection des données, par exemple, en Europe, elle a été passée, elle est très contraignante pour justement les entreprises, les grandes entreprises, on va pas les nommer, américaines et chinoises.
Les GAFAM.
Les GAFAM, tout. Et ça, c'est très contraignant pour eux. Moi, ça change pas ma vie en tant que Français en Australie. Ma collection de données, en Australie, elle est à peu près au niveau de ce que les Américains peuvent faire ou ce que les autres pays peuvent faire. Donc l'Europe se protège en elle-même, mais est-ce que c'est pas juste faire sa petite bataille de petit village gaulois contre une influence mondiale? Et je fais l'avocat du diable.
Il y a toujours la question du plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'au moins, ces lois, elles permettent de trouver un ensemble minimum de choses que tous ces pays vont devoir respecter et qui vont être contraignants et qui vont s'appliquer à tous ces pays. Mais ce que je veux dire avec l'intelligence artificielle, et je pense que c'est très important aussi de le comprendre, parce que vous avez tout à fait raison, c'est une question où toutes les puissances mondiales se courent les unes après les autres. Je prends juste cette phrase de Vladimir Poutine qui, moi, me semble extrêmement intéressante. Ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront les maîtres du futur. C'était avant l'invasion de l'Ukraine, c'était Vladimir Poutine en 2017. Donc, c'est-à-dire que du côté de la Russie, on en a totalement conscience. Vous parliez des Américains et de dire que finalement, c'est très bien de réguler, mais la plupart des plateformes, la plupart même de la technologie, la plupart de l'innovation, elle est du côté américain. C'est vrai. C'est un grand paradoxe, d'ailleurs, de ces lois. C'est que l'Union européenne, elle veut défendre ses citoyens, Christophe, mais aujourd'hui, vous, moi, n'importe quel citoyen, on utilise quasiment exclusivement des services qui viennent des États-Unis.
Ou de la Chine.
Ou de la Chine. vous avez dit, on ne peut pas les citer, mais pour qu'on se rende bien compte, on parle de Google, de Meta, d'Amazon, etc. Et donc, en fait, cet Artificial Intelligence Act, puisque c'est son nom, effectivement, il y a encore des trous dans la raquette. Mais la question, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on met un cadre qui est contraignant, qui permet de préserver ses libertés, mais c'est peut-être aussi la deuxième partie de l'équation qui est importante, mais qui permet aussi de favoriser l'innovation. Parce que d'un côté, on le voit bien, Christophe, il y a effectivement cette nécessité de protection, et notamment par la position unique qu'a l'Union européenne de ne pas encore avoir les grands champions, les grandes licornes de l'intelligence artificielle, même s'il y en a quelques-unes. Mais de l'autre côté, c'est OK, justement, comment est-ce qu'on fait pour combler ce retard? Donc cette législation unique sur l'intelligence artificielle, elle tend aussi à répondre à la manière dont l'Union européenne et les pays de l'Union européenne vont pouvoir rattraper ce retard. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant pour nous Français. Là, je parle à nos auditeurs français d'Europa Voice et d'SBS French. C'est extrêmement aligné aussi avec un plan d'action un rapport qui a été demandé par Emmanuel Macron et qui vient d'être publié là en France et qui détaille en fait point par point comment la France peut aussi combler son retard et être à la pointe de ces questions sur l'intelligence artificielle. Donc ce que je veux dire, c'est que les politiques ont bien conscience qu'effectivement, il y a le volet sécuritaire, de protection, etc. Mais de l'autre côté, c'est ne pas rater le train de cette intelligence artificielle parce que, clairement, on parlait des réseaux sociaux, alors ça a changé beaucoup de choses, mais l'intelligence artificielle, et ça c'est dans les rapports, c'est l'équivalent de l'électricité au début du 20e.
Justement, pour faire une image, on parle d'une intelligence artificielle appliquée dans tous les espaces, dans le monde du travail, je ne vous parle pas simplement de faire danser un chien sur les Black Eyed Peas. Je vous parle vraiment d'intelligence artificielle appliquée dans la vie de tous les jours. Et c'est là où il faut se rendre compte qu'on est aux portes de quelque chose, d'une révolution qui est bien plus que juste partager vos photos avec vos amis.
Ah, c'est
vous avez raison, c'est presque la découverte du feu.
Non,
enfin, j'exagère,
mais... Non, mais c'est-à-dire que les experts, là, je parle notamment de...
C'est une nouvelle révolution industrielle.
Oui, en fait, c'est ça, c'est une nouvelle... Là, je parlais de ce rapport qui a été en France co-présidé par la présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure, de l'économiste Philippe Agon, donc, avec un parterre d'experts dans plein de domaines, dans l'éducation, dans les relations sociales, etc. L'idée de ce rapport, c'est de détailler vraiment point par point où cette intelligence artificielle va avoir des conséquences et comment est-ce qu'on fait justement pour l'encadrer, mais pour ne pas rater ce train aussi qui est une véritable révolution. Et puis, il faut le dire aussi, dans la question de l'encadrement, c'est pas tellement qu'on n'a pas forcément les compétences pour déployer certaines technologies, c'est que certaines sont considérées avec des niveaux de risque qui sont, et là je prends les termes officiels, qui sont inacceptables. Vous parlez de la reconnaissance faciale, et vous parliez en fait de la Chine. Effectivement, en France, si c'est un outil qui est utilisé pour surveiller la population, c'est quelque chose qui ne va pas être mis en place parce qu'il y aura des garde-fous. Par contre, si c'est un outil qui va être utilisé, et ça il y en a de plus en plus, pour le suivi de pathologies, par exemple, chez des malades et dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Donc là, oui, effectivement, il va y avoir de l'argent, il va y avoir de la recherche qui va être mis dessus. Et donc, c'est aussi ça, en fait, le champ des possibles. On est au tout début et c'est ça le champ des possibles aussi que ces rapports et que cette législation veut mettre en place. C'est être capable de dire dans quoi on l'applique, où est-ce qu'on met les limites, domaine par domaine. Et je reviens juste sur ce rapport-là qui a été révélé en France. La question, elle se pose dans les services publics, elle se pose dans l'éducation, elle se pose dans la santé, elle se pose dans la police, elle se pose dans plein de secteurs différents et par conséquent dans les moyens aussi qu'on y met, dans la culture par exemple, dans les droits d'auteur, etc.
Oui, absolument. Enfin, il y a tellement à en parler, c'est certain que ce sera un sujet qui va revenir au goût du jour sur la table de l'information, de l'actualité, et donc pour le coup d'Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.